Tu n'es que toi, le puissant éternel. Nous as consolé, tu nous as relevé. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité, en toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es.
Alors, on va lire dans Ruth 4. Boaz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. Or, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, « Approche-toi, assieds-toi ici, toi, un tel. » Il s'approcha et s'assit. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, « Asseyez-vous ici. » Ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi est revenue du pays de Moab, et elle vend la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. » J'ai cru devoir t'en informer et te dire, faisant l'acquisition devant les habitants de la ville et les anciens de mon peuple. Si tu veux la racheter, rachète-la. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. En effet, il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. Il répondit, je la rachèterai. Boaz dit, le jour où tu rachèteras le champ à Naomi, tu l'acquerras aussi de Ruth la Moabite, la femme du défunt, et tu devras maintenir le nom du défunt sur son héritage. Celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne peux pas exercer ce droit de rachat pour mon compte, sinon je détruirai mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas l'exercer. » Autrefois, en Israël, pour valider toute affaire relative à un rachat ou à un échange, on retirait sa sandale et on la donnait à l'autre. C'était ce geste qui servait d'attestation en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, « Fais-en l'acquisition pour ton compte » et retira sa sandale. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machlon. Et j'ai également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage, afin qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères ni à la porte de sa ville. Vous en êtes témoin aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui sont toutes les deux données naissance à la communauté d'Israël. Monte ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme faire rassembler ta famille à celle des Pérès que Tamar a donné à Juda.
Boaz épousa Ruth. Elle devint sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célèbre et célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mise au monde, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. » Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Les voisins lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi », et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David.
Voici la lignée de Pérès. Pérès eut pour fils Hetzron. Hetzron eut Ram. Ram eut Aminadab. Aminadab eut pour fils Nakhson. Nakhson eut Salmon. Salmon eut pour fils Boaz. Boaz eut Obed. Obed eut pour fils Isaïe, et Isaïe eut David.
Nous prions. Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es. Et nous désirons, Seigneur, que tout ce que tu es, tout ce que tu fais, puisse encore ce matin encourager nos cœurs. Nous voilà devant toi. Nous demandons de ce que ton esprit puisse nous fortifier, nous donner cette espérance pour l'avenir et aussi la joie dans le présent. Te prions de nous parler par ce texte au nom de Jésus. Amen. Que de nom, que de nom et quelle drôle de manière de terminer ce livre. Nous avons passé, je rappelle très brièvement, le premier verset de ce livre, chapitre 1, verset 1. Nous étions au temps des juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, un temps de désordre. Et dernier mot de notre livre, c'est le roi David, où plus tard, dans le récit biblique, ce sera dit, il avait la paix de toutes parts du temps de David, du désordre à la paix. Mais nous ne sommes pas encore là, parce qu'avant d'entrer dans le repos, il y a une affaire à régler, un fils à naître et des noms à maintenir, à préserver, inscrire dans le livre de vie. Et c'est là notre chapitre 4. Donc, avant d'entrer dans le repos, une affaire est à régler. L'enjeu, de première vue, ne semble pas être si important que ça, une petite parcelle de terrain en vente. Je rappelle, on a vu précédemment dans ce livre de Ruth qu'il revenait à la personne la plus proche dans la famille si on n'avait pas les moyens soi-même d'acquérir la propriété à la place de la personne qui n'avait pas la possibilité, ou encore si une personne s'était vraiment était tombé dans des temps difficiles, tombé en esclavage, là, la personne la plus proche pourrait payer le prix pour qu'on retrouve la liberté. Mais certains diront, entre parenthèses, de toute manière, lors de l'année de jubilé, en retrouver ses droits, son terrain, sa liberté. Mais ici, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus dans la balance. Parce qu'on a vu à trois reprises qu'il s'agit plutôt d'une question de vie et de mort, que le nom du défunt ne soit pas retranché de son peuple. Question de vie et de mort. De toute manière, il y a une décision à prendre. Quand sera-t-il de l'avenir de Ruth et de Naomi? Il y a celui qui, il arrive, qui passe par là, celui qui a le droit de rachat. Mais lui, il ne veut pas entrer en matière. Et quelles sont ses craintes? Les craintes qui motivent le refus qu'il va avancer. D'abord, on peut dire que c'est purement économique. Première réaction, tout est gain. Tout est gain. Parcelle de terre en plus, je lève la main, je suis partant. Finalement, qui refusera si tout est gain? Mais ensuite, il découvre qu'il y a quand même un prix à payer. Il y aura des responsabilités à assumer. Donc, il y a aussi la question sociale. Il y a cette veuve dans l'affaire, cette étrangère, la Moabite. Et en plus, la famille qui reste, Noémie, il y a déjà une famille qui est presque perdu toute sa lignée. Alors, que diront les gens? Quel sera-t-il de ma réputation? Finalement, j'hésite. Et puis, la raison vient lui souffler. Peut-être, s'il y a un seul fils, ce serait le descendant de Mahlon. Et s'il n'y a pas de deuxième, finalement, alors, je renonce. L'engagement risque d'être trop coûteux. Nous disons « ouf », parce que maintenant, c'est Boaz qui entre en jeu. Et il y a donc un transfert à attester. Autrefois, verset 7, autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou un échange, on ôtait sa sandale et la donnait à l'autre. Cela servait d'attestation en Israël. Donc, rien d'écrit. On prenait sa sandale, je l'ai ici. Voilà. Et puis, verset 9, il y a les anciens. Et il y a tout le peuple. Ça se passait devant témoins. Et Boaz va dire, vous êtes témoins aujourd'hui. Et verset 11, tout le monde répond, simplement témoins. Ils disent pas plus que ça. C'est entre parenthèses, ils ont répondu témoins. Mais témoins, voilà. Et voilà, l'affaire est scellée, le gage donné, la transaction effectuée. Autrefois, en Israël, c'était comme ça. Et aujourd'hui, en Suisse, on ne fait pas ça, hein, quand une transaction est donnée, un échange est effectué. Aujourd'hui, comment les choses se passent? Alors, les choses se passent comme nous le savons, quand il y a un transfert du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils bien-aimé. Il y a un transfert qui est attesté par le baptême. Il y a un gage qui est donné par le témoin, le Saint-Esprit, qui scelle la transaction. Dans un mariage, je prends l'exemple de David, jeune camp, quand il a donné sa fille Rebecca en mariage, il n'a pas ôté sa chaussure pour le donner à Xavier, mais il y avait un geste public. Rebecca est entrée sur le bras de David. Ça a eu lieu devant le témoin de la ville, mariage civil, devant le témoignage les témoins de la communauté à l'église. Et voilà, l'affaire était scellée. Vous vous souvenez de cette parole qu'on avait considérée, ne perdons pas nos signes. On peut dire aujourd'hui, est-ce qu'elles ont une importance ici, en Suisse ou ailleurs? On peut certainement dire, dans les lieux célestes, oui, témoin. Donc, une affaire à régler et une affaire, à premier abord, pas très importante, une parcelle de terrain, mais ensuite, on découvre que le rachat est beaucoup plus compréhensif qu'on a pu comprendre au départ, au verset 3, parcelle de terrain. Parce qu'arrivé au verset 9, tout y est. Vous êtes témoin aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Noémie tout ce qui appartenait non seulement à Elimelech, le proche parent, mais aussi à ses deux fils, Kilian et Mahlon. En plus, Ruth, Naomi, c'est tout le package. Ainsi, le Rédempteur établit ses pleins droits sur la famille tout entière, pas seulement un seul. Il rachète toute la lignée de cette famille en Israël. Et en plus, il s'acquiert de celle qui était en dehors de l'Alliance. Donc, négativement, leur nom ne sera pas retranché d'entre les frères. Positivement, il y aura une descendance. Et si la créature que Boaz agit ainsi, combien plus le Créateur dans son rachat? Pour que nos noms ne soient pas retranchés, mais soient retrouvés dans le livre de vie. Ce n'est pas un petit rachat partiel dont il est question ici, et encore plus quand notre Rédempteur viendra. Ici, nous sommes dans l'histoire du salut en marche. Mais un jour, l'affaire sera réglée une fois pour toutes. Mais avant que le repos soit là, il y a aussi un fils qui doit naître. C'est les versets 13 à 17 de notre passage. Si l'amour de Ruth est reconnu par toutes les personnes, par ces femmes de Bethléem, elle qui vaut mieux que sept fils, mieux que la plénitude de la bénédiction familiale, Ruth, l'histoire pourtant ne s'arrête pas sur elle. On retrouve Noémie, comme nous avons dit au départ, elle est toujours là. Noémie a un fils. Elle, qui s'attendait à un avenir dans l'isolement, solitude, abandonnée. Mais on la retrouve à la fin de l'histoire, au sein d'une famille comblée, un rôle important à jouer. Mais comment? Grâce à cet enfant, elle va se trouver installée dans une nouvelle famille. Les femmes dirent à Noémie, « Béni soit l'Éternel », verset 14, « qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un Rédempteur dont le nom sera célébré en Israël. » S'agit-il de Boaz? On continue. « Il te fait revenir à la vie et soutient ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. » Il ne s'agit pas de Boaz, il s'agit de l'enfant à naître, ou qui vient de naître. Car un fils est né. Un fils, verset 12, qui est considéré comme don de l'Éternel, que l'Éternel te donnera. Donc la reconnaissance est à Dieu, verset 14. L'Éternel ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un Rédempteur. C'est lui, et pas Boaz, qui est le Rédempteur. Dieu a envoyé cet enfant comme le proche parent de Noémie, de toutes les Noémies, pour être celui qui rachète la veuve, l'orphelin, l'étranger. Que son nom soit célébré en Israël, nous dit le texte. C'est lui qui fera vivre Noémie. C'est lui qui assurera qu'il y a un avenir fait d'espérance. Cet enfant aura un nom. Verset 17. Obed, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'était un nom pas très courant dans l'Ancien Testament, et quand on voit la signification, c'est assez évident pourquoi. Ça veut dire le serviteur, pas forcément notre choix. Et cet enfant sera relié, fin verset 17, avec David, le plus grand roi d'Israël, lui qui fait avancer le projet de Dieu. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. De la racine d'Isaïe, je cite en Isaïe, se dressera comme une bannière pour les peuples qui sera recherché par les nations. Car un fils nous est né, un enfant nous est donné. La puissance reposera sur ses épaules. Il étendra la paix à toutes les nations. Mais avant que la paix n'arrive et le repos soit installé, non seulement il y a une affaire à régler et un fils à naître, mais il y a des noms à nommer, à maintenir, à inscrire. Et c'est là où on arrive à cette conclusion surprenante. Voici les descendants de Pérès, et puis tous ces noms que Cécile vaillamment a essayé de prononcer. Manière curieuse de terminer ce livre, un petit rajout par un éditeur quelconque. C'est frappant dans ce chapitre 4 combien de personnes sont nommées. Vous pouvez compter combien de fois il s'agit simplement du mot « nom ». Je les ai encerclés, c'est partout. Pour relever le nom de celui qui était mort. En fait, dans ce dernier chapitre, on retrouve tous les noms qui étaient nommés dans le livre de Ruth. Sauf ceux qui, finalement, ne sont pas entrés dans l'appel qui leur a été adressé. Celui qui avait le devoir de rachat n'est pas nommé. Orpa, on ne retrouve pas non plus dans ce quatrième chapitre, elle qui est retournée vers ses dieux. Sinon, tous, ils y sont, malgré leur parcours très difficile, à travers un engagement qui leur a souvent coûté très, très cher. Mais maintenant, entrer dans leur héritage, leur récompense sera très grande. Leurs noms sont désormais maintenus dans le livre de la vie. Ils sont entrés, et voilà notre conclusion, dans la grande famille que Dieu est en train de fonder. Voici les descendants de... C'est une phrase qui nous rappelle quelque chose. Ça remonte jusqu'à la Genèse. Voici les descendants de, ou voici la postérité de, voici les générations de. C'est différentes manières de traduire la même chose. Ça nous rappelle Genèse, chapitre 5. Voici les descendants d'Adam. Ça va aller jusqu'à Noé au chapitre 5 de Genèse. Dînons. Chapitre 11 de Genèse, de Sem, l'enfant de Noé, jusqu'à Abraham, Dinan. Et maintenant, Pérets, pourquoi là? Parce que il est du tribu de Juda, le territoire où se situe notre histoire. Parce que de ce tribu-là, déjà dans la Genèse, c'était annoncer que la descendance qui devait venir allait sortir. Il est ancêtre de Boaz. Il est ancêtre de tous les gens de Bethléem, nous dira 1 Chronique 2. Et en plus, il est né d'un mariage similaire, de Lévira, comme on dit, d'une étrangère, Tamar. Donc, de Pérets jusqu'à David, la conclusion de notre livre, dit non. L'histoire du salut que Dieu a promis à l'humanité, à offre à l'humanité, est en marche à travers les pages de la Bible. Et nous sommes invités à suivre cette histoire et à entrer dedans en signalant qu'il y a un échange, une transaction qui a été effectuée. Donc, nous voilà partis du temps de juge pour entrer dans un lieu de paix, de désordre à la paix. Noémie est venue sur scène les mains vides. On la trouve à la fin, le cœur comblé. Ces gens errés dans la campagne de Moab, les voilà installés dans une famille de Bethléem. Ils sont passés, selon notre texte, de la mort à la vie, grâce, le cœur du livre 2:20, grâce au Rédempteur qui a été donné. Un commentateur de ce livre dit la chose suivante. Dieu n'oublie jamais ses desseins de salut. Ces événements dans la contrée de Moab et ensuite à Bethléem jouent leur part qui conduit à la naissance du roi David, l'homme d'après le cœur de Dieu. La main de Dieu est là tenant l'histoire de l'humanité. Dieu œuvre pour l'accomplissement de ses desseins de génération en génération. Et cette généalogie, donc, est une manière frappante pour signaler cette continuité à travers les âges. Nous avons une vie relativement courte. La Bible trace toute l'histoire de l'humanité. Donc l'histoire n'est pas des coups d'hasard. Dieu veille et effectue son dessein d'amour. Jésus vient et l'annonce l'année de jubilé. Luc chapitre 4. L'affaire sera définitivement réglée à la croix. Car un fils nous a été donné. Un fils nous est né. L'histoire du salut est en marche et grâce à notre Rédempteur, nous trouverons nos noms inscrits dans le dernier chapitre de l'histoire. Nous prions. Ces choses nous sont inscrites d'avance pour notre instruction. Tu nous le dis, Seigneur. Nous désirons être instruits, oui, mais nous désirons être réjouis dans nos cœurs, Seigneur. Te prions par ton esprit de ôter nos doutes, de confirmer notre choix de marcher avec toi, de nous réjouir en toi, d'être optimiste concernant l'avenir qui nous est réservé en Jésus, notre Rédempteur. Nous te bénissons pour ta grâce de ce que tu as choisi de nous greffer dans cet arbre généalogique. Que nos noms soient inscrits ainsi dans ton livre de vie. Et ainsi nous trouvons notre place dans cette grande famille que tu as construite, que tu construis encore, et que tu continueras à construire jusqu'au jour où tout sera réglé. La page de l'histoire sera tournée et nous entrerons dans l'éternité avec toi, grâce à Jésus, notre Rédempteur. Amen.
Au cœur de notre foi, une transaction. Au cœur de l'Évangile, un sacrifice. Et j'aimerais vous lire pour faire un pont avec ce que nous venons d'entendre, ce texte de l'Ancien Testament et la scène que nous voulons prendre tout à l'heure, quelques versets du Nouveau Testament, des lettres qui rappellent cette transaction, ce sacrifice du Christ. Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rémission des péchés. Notre Sauveur Jésus-Christ, nous dit Tite, chapitre 2, s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Apocalypse 5, en parlant de l'agneau, « Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je vous invite, si l'équipe de louange peut me rejoindre, à chanter, à vous lever. Nous allons chanter le 728. Au-dessus de tout, Jésus. Jésus nous a aimés par-dessus tout. Que nous puissions chanter, louer cet amour de Jésus.
Au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des tons, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Aimer par-dessus tout.